Et cette musique, tu la reconnais?
Ah oui, bien sûr, c'est la Citroën C3 Music Touch.
Bien!
Profitez du meilleur de la musique dans votre voiture avec la série spéciale Citroën Music Touch. En janvier, bénéficiez de 5 500 € d'avantages clients sur Citroën C3 IHDI 90 Music Touch avec une tablette 10 pouces Samsung Galaxy Tab 2 et un an de musique. Portes ouvertes ce week-end selon autorisation.
Citroën, créative technologie.
Offre non cumulable sous condition de reprise d'un véhicule de plus de 8 ans. Bonus écologique de 200 € inclus dans la limite des stocks disponibles. Détails sur citroencarstore.fr.
Et c'est un autre Versailles que Franck Ferrand a choisi de nous présenter aujourd'hui sur Europe 1. Bonjour cher Franck.
Bonjour chère Julia, bonjour à tous. Lorsqu'on imagine le château de Versailles sous Louis XIV, on pense évidemment aux grands décors, aux grands personnages, aux grandes tenues de cour, aux grandes fêtes. Et l'on oublie les petites gens du service, les petites tâches quotidiennes, les petits métiers qui animent ce qui reste un immense chantier. Bref, tout un petit peuple de l'ombre dont le directeur scientifique du centre de recherche du château de Versailles, Mathieu Davina, s'est fait une spécialité.
Alors ce petit peuple de l'ombre, il est aussi au cœur du nouveau grand roman d'Ève de Castro.
Oui, beaucoup de grandes petites, on est dans des extrêmes aujourd'hui. D'ailleurs, ce roman s'intitule « Le roi des ombres ». Au-delà du petit personnel, on y partage le quotidien des ouvriers qui ont bâti Versailles. Ève de Castro va nous rejoindre tout à l'heure pour nous présenter ces personnages qui, comme toujours, sont infiniment attachants.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Ah, si Versailles m'était compté, j'y prendrais un grand plaisir, disait Sacha dans un film célèbre en 1953. Moyennant quoi, il nous gratifiait d'une fresque colorée mais très fantaisiste, où n'apparaissaient que les rois, les princes, les favoris et autres courtisans. Et le fait est que lorsqu'on parle notamment de la cour de Louis XIV, on y évoque davantage les seigneurs et les belles dames que toute cette foule de valets, de lavandières, de feutiers. C'était ceux qui ranimaient le feu dans les cheminées, vous savez, pour ne pas nommer les étranges coureurs de vin et porte-chaise d'affaires, nous y reviendrons. À Versailles, on les appelait les utilités et le fait est qu'ils se perdent un peu dans la trame du somptueux décor. Alors combien sont-ils, ces habitants modestes du château de Versailles, au service du roi, des princes, des ministres, des courtisans? Eh bien, évidemment, ça dépend de la période considérée. N'oublions pas que la cour ne s'installe vraiment à Versailles qu'en 1682. 40 ans plus tard, au tout début du règne de Louis XV, le premier état statistique à peu près fiable, celui du commissaire de police Narbonne, donne un chiffre de 4250 personnes logées au château et dans les dépendances, notamment le grand commun, qui fait un peu office de dortoir, en tout cas dans sa partie haute. On peut donc conclure que les serviteurs de différents grades sont plus de 3000, peut-être 4000 à certaines périodes du règne précédent. Difficile d'être beaucoup plus précis. Mais d'ailleurs, peut-on les agréger en un seul groupe, ces serviteurs de grades et d'importance très différents et qui vont des valets de chambre du roi, qui sont eux carrément des seigneurs, en tout cas très proches des seigneurs, jusqu'aux simples frotteurs ou gazos, qui sont de toutes petites gens? Sûrement pas. Il faudrait également distinguer entre les officiers du roi et les autres. N'oublions pas que les seigneurs et les dames logés à la cour emploient leur propre personnel, des laquais, des femmes de chambre, etc. Et rien que dans la maison du roi, mais il existe une maison distincte, plus ou moins étoffée pour chaque membre important de la famille royale, rien que dans cette maison du roi, on distingue 8 services. Chapelle, maison civile, chambre du roi, bâtiment, maison militaire, écurie, plaisir et prévôté de l'hôtel. Inutile de vous dire que les personnel de la maison civile, ils sont eux-mêmes répartis en 7 offices, gobelets, bouches, pantry commun et chansonnerie commun, cuisine commun, fruiterie et fourrière. Inutile de vous dire que tous ces gens avec des grades très marqués, chef, aide ordinaire au-dessus des aides d'ailleurs, écuyer, porteur, sommier, huissier, avertisseur, porte-table, serre-d'eau, maître-queue, batteur, potager, pâtissier, galopins ordinaires, etc., etc. Que tous ces gens, dis-je, sous l'autorité du grand maître de France et des maîtres d'hôtel, n'avaient pas grand-chose à voir avec, par exemple, la foule d'officiers et de serviteurs de la grande écurie commandée par Monsieur le Grand et chargée des chevaux de selle et de la petite écurie sous les ordres de Monsieur le Premier et chargée des chevaux de trait. Et là encore, il faudrait distinguer tous les types d'écuyers, grands et petits valets de pied, palefreniers, maréchaux, celliers, éperonniers, etc. Et je vous fais grâce des pages et de leur écuyer commandant, chacun avec sa tâche bien spécifique et interdiction d'empiéter sur celle du voisin, parce que tout ça est extrêmement formel et formalisé, bien entendu. Alors imaginez, ce ne sont là que 2 services sur les 8 de la maison du roi. Et il y a les autres maisons. Et puis encore une fois, tout le personnel domestique n'appartenant pas en propre aux services, aux offices de la couronne. Tout cela ne peut, dans un espace très vaste certes, mais limité néanmoins, tout cela ne peut que créer de l'encombrement et l'impression d'un immense capharnaüm, et d'autant plus que sous Louis XIV, le château est en transformation permanente. C'est un véritable chantier qu'il faut imaginer avec ses échafaudages, ses gravats, sa poussière de plâtre. Tout ça rend le séjour de Versailles incommode, même pour la famille du roi, nous dit Mathieu Davina. Son très beau livre « Le Versailles de Louis XIV » est une véritable mine d'informations sur tous ces aspects souvent négligé de l'histoire versaillaise, sur notamment, parce qu'il parle aussi des autres, bien entendu, notamment sur ce que le regretté Jacques Levron appelait les inconnus de Versailles. Mathieu Davina est avec nous pour nous aider à faire connaissance avec tout ce petit peuple.
Les Valets de la Fête sur Europe 1, extrait des Noces de Village composé par Jean-Baptiste Lully. Pour accueillir votre premier invité, Franck, il s'agit de l'historien Mathieu Davina.
Bonjour Mathieu, merci beaucoup d'être venu nous parler de ce peuple versaillais dont on ne met en évidence généralement qu'une partie, effectivement. On parle du roi, de la famille royale, des princes, de toute la cour, ce qu'on appelle les grands officiers, c'est-à-dire les personnages importants de la cour. Et puis, généralement, parce que c'est considéré un peu sans doute comme une évidence, on oublie tout ce peuple de domestiques qui est autour, qui s'agite et qui fait marcher la maison en quelque sorte. Alors j'ai dit qu'il était très difficile de dire combien il y en avait. Vous avez-vous peut-être des éléments plus pointus que les miens ?
Oui, c'est vrai que c'est assez difficile d'évaluer le peuple à Versailles et... Pour faire fonctionner toute cette mécanique, on a toujours l'habitude évidemment de mettre en avant les grands, le roi, sa famille. Mais évidemment, pour faire fonctionner cette mécanique, il y a toute une série de domestiques derrière. Et vous l'avez évoqué, c'est vraiment Pierre Narbonne, le premier commissaire de Versailles, qui, au retour de la cour en 1722, donne des chiffres très précis. Il y a un premier recensement de la cour à Versailles et on voit effectivement qu'il y a 4000 personnes logées dans l'enceinte même du château et environ 2700 personnes dans l'ensemble des dépendances du château. Soit à peu près 6700 personnes logées aux frais du roi, sachant que, évidemment, vous l'évoquiez, il y a tout un... strates différentes de hiérarchie. Mais ce qui est important de noter également, c'est que tous les gens qui sont logés à Versailles le sont logés par nécessité.
Voilà. Alors, quand vous dites par nécessité, ça c'est fondamental. C'est-à-dire qu'il faut avoir, pour être logé, ce qu'on appelle un office. Alors ça, il faut expliquer aux auditeurs.
Un office ou une charge, c'est compliqué. Oui. Mais en tout cas, il faut être...
Avoir quelque chose à faire à la cour.
Travailler pour l'un des membres de la famille royale. Alors, ça se distingue du très très grand seigneur qui a un simple service d'honneur dont le rôle consiste à donner la chemise au roi, au plus petit personnel, on parlait tout à l'heure, des frotteurs, des ciriers, des hâteurs, etc. Mais ils ont tous une charge auprès de l'un des membres de la famille royale.
On va essayer de les définir. Les cireurs, bon, ça c'est facile à comprendre. Les frotteurs.
Les frotteurs de parquet.
Ce sont les gens qui sont là pour astiquer, en quelque sorte.
En fait, on appelait, tous ces gens-là étaient sous la houlette, en tout cas, du gouverneur de Versailles.
Les hâtiers, ce sont ceux qui...
Les hâteurs.
C'est
pour la bouche aussi, donc il y a toute une dénomination. Alors,
c'est ceux qui vont jeter les sauces.
Capable de vous faire toutes les distinctions.
Il s'occupe des rôtis, je crois.
Oui, des rôtis. Il y a tous les personnages qui ont des noms tous plus exotiques les uns que les autres, qui sont très sympathiques. Et puis, donc, il y a tout ce personnel qui est très, très, très présent et que Jacques Levron appelait effectivement les utilités, mais qui sont visibles et invisibles, c'est-à-dire qu'ils sont présents mais on les voit, on ne les voit pas.
C'est-à-dire que je pense, comme dans les grandes maisons d'aujourd'hui, ça, de ce point de vue ça n'a pas beaucoup changé, je pense que tout ce monde-là essaie de se faire le plus discret possible, évidemment, mais il y a une telle masse de personnel que néanmoins ça doit faire masse, hein, on doit les voir beaucoup dans les couloirs.
Il y a Primi Visconti, le courtisan italien qui a séjourné à la cour dans les années 1670 et au début des années 1680, mais qui parlait déjà de Versailles, évoquait vraiment le roi lorsqu'il sortait de son appartement, comme la reine des abeilles, avec cette nuée de valets, de gardes du corps qui l'entouraient. Alors, la plupart quand même des domestiques de type de la bouche qui s'occupent de la nourriture du roi sont au grand commun et on ne les voit pas. Ce sont vraiment, Ève de Castro l'évoquera certainement, évidemment, les ouvriers sont visibles parce qu'ils sont à l'extérieur du château et on les voit, ça travaille en permanence,
sûr, oui.
les maçons, ce qu'on appelait les limousins, etc. Mais tout le personnel de bouche est localisé, en tout cas, dans un endroit bien précis où on ne les voit pas. Dans les offices. En revanche, tout le personnel qui s'occupe du corps du roi, c'est-à-dire le personnel le plus proche.
La maison militaire, notamment.
La maison militaire, qui s'occupe là de la protection du corps du roi, mais également tous ceux qui s'occupent du corps au sens intime, c'est-à-dire les départements de la chambre, le grand chambellan, etc. Eux naviguent dans le château, sont présents.
Ils ont un uniforme ?
Alors, certains ont des livrées, ce qu'on appelle des livrées, c'est-à-dire un uniforme. Mais la plupart des officiers, dès qu'on commence à être un petit peu important, ce qui est le cas des valets de chambre, on n'a pas idée que les valets de chambre sont des personnages importants à l'époque, sont habillés en civil avec l'épée au côté. En revanche, il y a ce qu'on appelle les garçons bleus qui ont la livrée du roi, donc le juste corps galonné avec le bleu aux couleurs du roi. Et on a un certain nombre de qui ne sont pas forcément des officiers d'ailleurs, qui sont des gens du château qu'on appelle sous la houlette de l'intendant de Versailles. Ce sont des gens du château et qui sont là pour faire en sorte que tout fonctionne bien au quotidien.
Alors vous avez dit tout à l'heure que tous ces gens étaient logés aux frais du roi, c'est-à-dire qu'ils ont non seulement le couvert mais aussi le vivre, hein. On les nourrit en vérité.
Oui, c'est assez exceptionnel pour que Colbert le note au début des années 1660, au moment où Versailles initialement est une résidence privée. Mais même en tant que résidence privée, Colbert notait que Louis XIV offrait non seulement le gîte, mais aussi le couvert. Et c'est la tradition de la monarchie française, du moins le mot commensal, c'est d'ailleurs cum mensalis, c'est d'ailleurs avoir le droit de manger à la même table du roi. Alors évidemment, il y a bien longtemps qu'on ne mange plus à la table du roi.
Mais, ça, c'était au Moyen-Âge.
Mais même après Henri IV, il y a quelques compagnons d'Henri IV qui mangeaient encore avec le roi. Sinon, Louis XIV a quand même mis une distance extraordinaire pour bien marquer les rangs entre chacun. Mais ils sont nourris aux frais du roi, mais pour des questions de commodité. C'est pour éviter qu'ils aient à vaquer en ville.
Pour aller s'acheter de quoi manger.
Donc il y a différents types de nourriture, mais les domestiques les plus importants sont logés aux frais du roi et mangent avant le repas du roi s'ils ont un service auprès du dîner, ce qu'on appelait notre déjeuner. Et voilà, donc il y a vraiment, en fait, c'est un principe de nécessité.
Alors, comment est-ce que tout ça fonctionnait au quotidien ? C'est ce que nous voyons ensemble dans un instant.
Comme toujours sur Europe 1, en compagnie de Mathieu Davina, qui est directeur scientifique du Centre de recherche du château de Versailles. Nous parlons du Versailles des petites gens, celui des utilités, des domestiques, des ouvriers qui vivaient dans l'ombre de Louis XIV.
Et oui, bien sûr, hein, parce qu'il y avait donc cette armée, littéralement, de serviteurs de tous ordres et de tous niveaux. Alors, vous l'avez bien dit, Mathieu Davina, il y a une hiérarchie extrêmement stricte. On va mettre de côté vos chers valets du roi. D'ailleurs, tiens, je signale, Eric nous écrit, je voudrais dire un grand merci à Mathieu Davina pour son livre sur les valets de chambre de Louis XIV. Je suis en train de le lire, c'est fabuleux, vous voyez. Donc,
merci beaucoup.
Mais c'est vrai que c'est un très beau livre. Alors ça, on va dire que c'est l'aristocratie du métier. Mais pour parler des gens plus communs, en quelque sorte, ils sont organisés par service, on l'a vu, je l'ai dit en quelques mots tout à l'heure, et chacun a un emploi bien spécifique, hein, une tâche à tenir. On n'empiète jamais sur celui sur le voisin.
La hiérarchie des rangs est très importante à la cour, et à Versailles a fortiori. Et tous ces personnages qui sont là dans un but de travail, c'est-à-dire qu'on a l'image effectivement de Versailles, lieu d'oisiveté, de plaisir, etc. C'est un lieu de travail. Tous les gens qui sont là pour travailler.
Un lieu de travail qui est rythmé par
la
journée cérémoniale de la cour.
Alors c'est très les grands temps de cour.
Ouais,
c'est-à-dire
c'est
que ce qu'on appelle les grands temps de cour, c'est le lever du roi, la messe.
Alors pour ce qui est de Louis XIV, c'est assez pratique. On serait sous le règne de Louis XV, ce serait plus complexe.
Oui.
Mais sous Louis XIV, les horaires sont très fixes.
Oui,
hein, le lever du roi
Louis XIV
à 8 heures.
Se fait une obligation l'obligation, même lorsqu'il est malade, de respecter à la lettre, d'où on a ces citations qui sont très connues de Saint-Simon et d'autres courtisans de l'époque, qui dit qu'avec un almanach et une montre, on pouvait à 300 lieues de lui dire ce qu'il faisait. Et c'est vrai que Louis XIV, dans une journée entre guillemets ordinaire, tous les jours se lève à 8h30, à 10h il y a la messe, à 11h il y a le conseil, à 13h il y a le dîner, c'est-à-dire notre déjeuner, ensuite il y a la promenade ou la chasse, il y a les retours de chasse, à 18h ou à 19h il y a les soirées d'appartement si on est en hiver, il y a le souper à 22h, le coucher à 23h.
Donc je parlais du salut parce que en même temps que ce rythme civil, il y a un rythme religieux très important. La vie entière de la cour se passe au rythme des messes, ce qu'on a un peu oublié
et
aujourd'hui.
De la liturgie qui est très présente, notamment il y a Alexandre Maral qui a fait un très très beau livre
sur le
sujet.
Il est venu nous en parler ici.
Et Louis XIV est marqué et empreint de religion, si on sait qu'il avait une vie au départ un petit peu plus dissolue, on va dire, avec ses maîtresses, mais il a toujours été très marqué par la religion. Et tout cela est codifié. Et donc tous ces personnages sont là pour faire fonctionner la machine. Alors ils sont, on le disait, dans le grand commun, ils sont logés dans des conditions un petit peu spartiates. Hein. Ça n'a rien à voir avec les appartements que Saint-Simon pouvait appeler des niaras.
Qui étaient ceux des courtisans.
Oui, mais ce ne sont pas vraiment des niaras. C'est-à-dire qu'il faut relativiser même les propos de Saint-Simon dans la mesure où les courtisans qui logent au château ont l'habitude d'habiter un hôtel particulier.
Mais oui, alors évidemment,
alors,
c'est moins bien.
Habiter dans un 4-5 pièces à Versailles qui fait quand même 150 mètres carrés, pour eux, ça les change.
mais ça reste pour nous, avec nos critères modernes, voilà, c'est encore acceptable.
C'est très acceptable.
Tout est relatif.
Qu'il faut dire tout de même, pardon, mais c'est que dans ces 4 ou 5 pièces, il faut loger généralement monsieur, madame et le personnel privé.
Alors, pas nécessairement. C'est-à-dire qu'on garde le valet de chambre ou la femme de chambre. Sinon, ils ont généralement un hôtel en ville à Versailles qu'ils ont acheté.
Où loge le personnel,
où ils ont leur carrosse, etc.
C'est-à-dire qu'après une journée qui souvent finit tard, parce qu'on peut imaginer que tel grand seigneur est au coucher du roi, et que le coucher du roi n'a pas lieu de bonne heure, évidemment, c'est après 23h.
Oui.
Donc, après cette journée de travail, généralement d'ailleurs, on soupe. Alors, c'est beaucoup plus tard que Madame de Genlis dira, on est là sous Louis XVI, elle dira que le seul bon moment de la vie de cour, c'était après le coucher du roi, parce qu'enfin on était libre, disait-elle. Bon. Mais le personnel finit donc vers 1h, 1h30 ou 2h du matin, et là il faut retraverser la ville de Versailles pour aller loger dans l'hôtel. Et dès 6h30, 7h, on est de nouveau
sur le pied de grue pour justement le début de la journée.
Oui, donc c'est quand même, ce sont des vies, on voit ça d'ailleurs dans, je vais citer un feuilleton qui n'a pas grand-chose à voir, mais dans, vous savez, dans Downton Abbey, où on a cette vie d'une grande maison britannique au début du 20e siècle, on a encore cette impression que le personnel est là presque jour et nuit en vérité. Bon, c'était déjà évidemment le cas. Alors, je disais que personne n'empiète sur le travail de l'autre, ça peut amener à certaines situations ubuesques. Là encore, on n'est pas forcément sous le règne de Louis XIV, mais on est dans ces mêmes principes de cour. On raconte le problème de la reine qui a besoin d'un verre d'eau à 16h. Or, ni sa première dame, ni sa dame d'atour, ni la première femme de chambre ne sont là, donc elle ne peut pas boire.
Des choses croquignolesques, même lorsque Marie-Antoinette arrive à la cour en 1770, se pose un problème où on a pratiquement les femmes qui se battent pour lui donner la robe, et c'est Madame Campan qui le raconte, et elle est, en attendant, elle est nue pratiquement, du moins, modérément, en attendant qu'on sache qui va donner la robe de chambre à la reine.
On parle aussi de Louis XV faisant le feu dans sa cheminée lui-même de peur de créer des dissensions au sein des services chargés.
C'est-à-dire que l'étiquette est tellement prégnante, et encore plus, même, on a la tendance à dire qu'elle disparaît sous le règne de Louis XV, mais en fait, elle évolue. Et vient se confronter à l'étiquette le problème de la politesse également au XVIIIe siècle, où on n'ose plus s'asseoir en présence d'autres personnes, même si on y a droit, parce que des personnes restent debout. Donc tout se complexifie on a des, sous le règne de Louis XIV, beaucoup de conflits qui sont mis devant les qui doivent être
doivent régler les grands officiers, notamment, et puis le roi en dernier recours.
Tout à fait.
Alors dans un instant, et là Eve de Castro va nous rejoindre, nous allons parler du chantier de Versailles que vous connaissez vous très bien, Mathieu Davina. D'ici là, j'aimerais qu'on évoque un aspect parmi d'autres de cette fourmillante vie de la cour de Versailles, c'est la peur du feu et le risque d'incendie.
Cœur de l'histoire sur Europe 1, le récit de Franck Ferrand.
Un récit de Franck qui s'arrête maintenant sur le risque d'incendie à la cour de Versailles.
Et oui, les feux de cheminée représentaient un danger permanent d'incendie plus ou moins grave, nous dit Mathieu Davina dans Le Versailles de Louis XIV, qui est réédité dans la collection de poche des éditions de Perrin, vous savez, qui s'appelle la collection Tempus. Ce fut notamment le cas en mai 1707, où un début de sinistre ne s'acheva heureusement que par des dégradations matérielles. Le marquis de Dangeau rapporte dans son journal à la date du 22 mai, et je cite Dangeau, « Le feu prit la nuit à Versailles, à l'appartement du maréchal de Noailles. Le désordre ne fut pas si grand qu'il pouvait être, parce qu'on y remédia promptement. Il y avait plus de 4000 hommes qui travaillaient à éteindre ce feu. Le dommage ne laissa pas d'être encore assez considérable, parce que le toit et la charpente sont entièrement brûlés. » Le risque était d'autant plus grand, nous dit Mathieu Davina, que l'appartement était immense. Sourche, qui raconte le même événement, précise que le feu a pris une heure après minuit et que, je cite, « dans sans le prompt secours qu'on y avait apporté, l'incendie aurait été plus considérable et que s'il avait fait du vent, la chapelle, le garde-meuble et peut-être le corps du château auraient été brûlés ». Jacques Levron avait longtemps été l'un des spécialistes de cette question. Il nous parle de ce risque qui n'a cessé de peser. Ces girandoles, ces couronnes de lumière constamment illuminées, écrivait-il, ces cheminées qui de surcroît tiraient mal, flambant la nuit comme le jour, que de risques d'incendie. Et si on ajoute à tout ça, évidemment, faut imaginer cet entassement dont on vous parle depuis tout à l'heure, entassement des courtisans mais aussi du personnel, ampleur des robes féminines qui peuvent facilement prendre feu, on peut se dire que finalement, le château de Versailles est littéralement miraculé. Il n'a jamais brûlé, en tout cas pas entièrement. Il y a eu des départs, des foyers d'incendie, mais jamais rien de grave, ni au XVIIe, ni au XVIIIe siècle du reste. Alors, si un certain nombre de conservateurs du château m'entendent en ce moment, ils doivent me maudire, parce que ça fait partie, ça, des sujets tabous dont on ne parle jamais, de risque, n'est-ce pas? Mais tout en parlant, je cramponne la table en bois du studio Coluche.
Je confirme.
Nous touchons du bois, bien entendu. Alors, pour se défendre contre le feu, pour essayer d'aller contre ce risque-là, le premier problème à résoudre, c'est évidemment celui de l'eau. Alors vous allez me dire, l'eau, on peut pas dire qu'il en manque beaucoup à Versailles, puisque on a évidemment d'abord le ruisseau de Galie, lui-même, dont il a fallu détourner le cours pour creuser le grand canal et l'alimenter. Et puis il y a tous ces étangs qui parsèment les environs du premier village de Versailles, dont celui de Clagny, le plus important, qui n'a été comblé qu'au milieu du XVIIIe siècle. Il était donc possible de puiser là-dedans. Mais aussi, il y a évidemment tout cet afflux immense d'eau qu'on a prévu pour faire jouer les fontaines du roi, bien entendu. Et puis, évidemment, à mesure que la ville de Versailles elle-même se développait, on a vu s'étendre les besoins en eau de la population. Et donc, évidemment, il y a eu énormément de moyens d'acheminer de l'eau vers Versailles. Alors, on connaît bien sûr la célèbre machine de Marly et tous les aqueducs qui avaient été établis pour acheminer l'eau depuis Marly jusqu'à Versailles. Il faudrait parler aussi de l'extraordinaire projet qui avait été celui de Louvois d'aller puiser carrément l'eau de l'Eure. Vous savez, avec ces vestiges qui restent aujourd'hui des espèces de ruines incroyables dans la campagne, les vestiges de l'aqueduc de Maintenon qui n'ont jamais servi du reste, qui n'a jamais servi. Alors ce service des eaux est placé dès l'origine sous la direction du maître fontainier qui a sous ses ordres 3 compagnons et 7 garçons. On peut dire que les fontainiers reçoivent naturellement la mission d'assurer la protection du palais contre l'incendie puisqu'ils ont, je cite l'édit qui fonde leur compagnie, le contrôle, l'emmagasinage et la conduite des eaux. Alors évidemment, les eaux sont amenées dans un pavillon qui est situé, c'est évident, rue de la Pompe. Ce pavillon est très beau d'ailleurs, il existe encore aujourd'hui, ça fait partie des jolies architectures de la ville de Versailles. Et de ce pavillon de la rue de la Pompe, eh bien, on peut dire que l'eau ensuite est distribuée à travers la ville entre 11 fontaines. Quant au château, il bénéficie de canalisations particulières qui aboutissent près de la rue des réservoirs où est installé un immense réservoir susceptible de servir aussi bien pour les fontaines du parc, bien entendu, qu'en cas de besoin, en cas d'incendie. Et en cas d'incendie, le premier soin des fontainiers, c'est d'ouvrir les vannes, car l'eau est si rare qu'évidemment, il faut veiller à éviter tout gaspillage. Donc, c'est à ce moment-là précisément qu'on agit. Le maître fontainier, il s'appelle Denis, au temps de Louis XIV, est soumis à une discipline très sévère, puisque c'est sur lui que repose non seulement la bonne marche des eaux et des fontaines, mais c'est sur lui que repose cette très importante défense contre le feu.
extrait de la pastorale comique composée par Jean-Baptiste Lully sur Europe 1, Franck.
Alors évidemment, les fontainiers, je viens de vous le dire, hein, sont obligés d'être présents. Si jamais ils doivent s'absenter, d'ailleurs, ils doivent être remplacés par un compagnon. Ça permet évidemment de maintenir une sorte d'alerte permanente. Alors d'abord, si le roi a besoin de se promener de façon inattendue, ce qui est très rare, hein, parce que tout, surtout sous Louis XIV, tout est parfaitement programmé. Enfin, évidemment, il faut qu'il y ait du monde pour actionner, pour mettre en eau les fontaines. Et puis surtout, en cas d'incendie, bien entendu. Un règlement a été établi en 1692. Il sera appliqué constamment hein, jusqu'à la Révolution. Ce règlement dit que le fontainier et ses aides doivent être à pied d'œuvre et ils sont logés d'ailleurs dans le fameux bâtiment de la rue de la Pompe. Alors, pendant les premières années, celles qui vont nous intéresser pour ce qui concerne le roman d'Ève de Castro, pendant ces premières années, on se contente d'utiliser des seaux quand se déclare le moindre feu de cheminée. Il y en a fréquemment hein, de ces feux de cheminée, bien entendu. Et puis, petit à petit, on va voir s'installer de véritables tuyauteries de cuir reliées aux postes d'eau répartis sur l'ensemble du domaine. À partir de l'ordonnance du bailli du 28 mai 1694, écrit Mathieu Davina, les fontainiers furent épaulés par des cartonniers, lesquels, en cas d'incendie, feront porter à l'endroit où sera le feu les 10 seaux, crochets et échelles qui seront déposés dans leur maison, ainsi qu'ils se pratiquent à Paris, et manderont les habitants de leur quartier qui seront tenus de s'y transporter à la première réquisition pour y apporter les secours nécessaires à peine de 20 livres d'amende. C'est beaucoup, hein, c'est une grosse amende. On n'est pas loin d'entre 500 et 1000 de nos euros, si vous voulez. Le 23 mai 1708, on a ça dans le journal de Dangeau, c'est le propre fils de Louis XIV, hein, le fils qu'il avait eu, le dernier des fils qu'il avait eu avec Madame de Montespan, le comte de Toulouse, qui a manqué de brûler vif. Je cite le journal de Dangeau. À 8h, le roi revint ici, donc ici à Versailles, et ramena Madame la Duchesse de Bourgogne dans sa calèche, et en arrivant, il alla voir Monsieur le comte de Toulouse, qui a pensé être brûlé cette nuit dans son lit par une bougie qu'il avait laissée allumée en lisant et qu'il n'avait pas éteinte en s'endormant. Il avait mis le feu à ses matelas et Monsieur le comte s'est brûlé à la cuisse et à la jambe assez violemment pour en être incommodé. Or, il semblerait que ce jour-là, tout le monde, le quartier entier, a accouru pour aider et pour éteindre le feu. On s'explique comment des milliers de personnes sont à chaque fois mobilisées, nous dit Mathieu Davina, pour lutter contre le feu, notamment celui qui a eu pris chez le maréchal de Noailles en 1707. En effet, nous dit-il, tout simplement, les habitants n'avaient pas le choix.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et nous sommes toujours sur Europe 1 en compagnie de l'historien Mathieu Davina. Et Ève de Castro nous a rejoint, elle est écrivain et scénariste, auteur notamment du livre Le Roi des Ombres chez Robert Laffont.
Et oui, Le Roi des Ombres qui justement nous plonge dans un Versailles doublement inattendu. D'abord parce que c'est celui, on l'a dit, des petites gens, des ouvriers, etc. On va y venir dans un instant. Mais aussi parce que la période dont on parle, c'est la période qui s'étend de 1665 à 1674, c'est-à-dire de la mort d'Anne d'Autriche à l'échec du complot du chevalier de Rohan. On est donc dans le premier, on va dire même pour être tout à fait exact, dans les deux premiers Versailles, pas le grand château que l'on connaît tel qu'il est aujourd'hui, Ève de Castro. Vous nous emmenez dans un Versailles qui était en pleine construction. Alors là, je parlais de fourmilière tout à l'heure, mais là ça s'active, hein, sérieusement.
On peut aujourd'hui absolument pas imaginer ce que ça a été. Versailles, bien sûr, c'est 30 ans de travaux, mais c'est vrai que le tout premier Versailles, bon, Versailles, on connaît tous le corps central, la cour,
oui,
de marbre.
Sûr, oui.
Il faut imaginer que ça, c'est le tout premier,
voilà,
palais. C'était le relais de chasse de Louis XIII, que Louis XIV...
Étoffé, arrangé pour Louis XIV.
Voilà,
oui.
qu'il affectionnait parce qu'il y chassait et parce que dans les tout premiers temps, il s'y retirait pour y cacher ses amours avec Louise de la Vallière. Et puis, petit à petit, il y est venu de plus en plus régulièrement. Et à la mort d'Anne d'Autriche... À partir de 1666, Anne d'Autriche lui avait demandé de renoncer aux bâtiments, aux femmes et aux guerres. Et il en a fait le serment sur son lit de mort pour immédiatement le violer et commencer les travaux que je raconte.
Il fera beaucoup plus tard les mêmes recommandations à son arrière-petit-fils
Absolument.
Louis XV sur son propre lit de mort, du reste.
Mais son arrière-petit-fils n'aura pas les mêmes,
passions.
Les mêmes passions, ni la même vision.
En tout cas pas au même degré.
Ni la même vision de sa gloire et de la façon de transcrire cette gloire dans la pierre, ce qu'est Versailles. Parce que Versailles, c'est avant tout un théâtre, une scène. dont Louis XIV n'a que petit à petit la vision précise, mais dont il a certainement, dès ces années, dès 1666, le désir profond.
Alors on va venir évidemment tout à l'heure à l'intrigue de votre roman, à son point de départ très intéressant, qui bien sûr est historique. J'aimerais qu'on dise un mot de ce chantier justement. Vous nous présentez finalement un chantier, si je puis me permettre, hein, et pourtant c'est très documenté, mais qui fait penser au chantier d'aujourd'hui à quelques aspects près. Hein.
Mais je ne pense pas que ce soit très différent, sinon dans la démesure.
C'est ça.
Et dans l'apparente inorganisation ou désorganisation. Ça a l'air d'un gigantesque chantier à ciel ouvert, avec des monceaux.
Un joyeux bazar.
Un énorme bazar. Surtout que, évidemment, tous les matériaux sont acheminés soit à charrette à bras, soit avec des charrettes tirées par des chevaux ou des bœufs. Tout ça reste stocké en plein air. Il y a des grues qui montent, qui descendent. Les ateliers de scierie sont à ciel ouvert. Et puis surtout, ce à quoi on pense rarement, le chantier a commencé par les jardins, pas par le château. Dans l'époque du premier Versailles, les années 1666-1670, ce qu'on voit, ce qui est le Grand Canal aujourd'hui, c'est un marécage où l'eau affleure. Ce sont des prairies où paissent des moutons et des vaches, amenées là par les paysans de Versailles. Et Louis XIV a d'abord la vision de ses jardins. C'est sa première passion. Il s'intéresse d'abord à défricher, à assécher. Et je raconte, nous en parlerons peut-être, ce qu'était le travail quotidien de ces gens qui vivaient sur la marge du chantier des jardins bas, dans des cahutes qui sont effectivement comparables à ce que sont les cahutes des chantiers des travailleurs immigrés de nos grands chantiers publics. Là, c'était des cabanes en planches sur donc la bordure de ce qu'était encore la forêt. Et ces gens trimbalait.
Il y a une grande rudesse, hein, quand même. Vous nous montrez, un XVIIe siècle qui est loin
d'une grande âpreté.
Oui,
mais je pense qu'il était temps de peut-être déchirer un peu les images d'Épinal, parce que le XVIIe siècle, ça n'est pas seulement l'or, les marbres, les poudres,
ça,
les paillettes.
C'est ce qui reste.
C'est ce que Louis XIV a voulu transmettre comme image de son règne, de sa gloire, pas seulement de lui-même, parce que ce qu'il ambitionnait allait au-delà de lui-même. Mais ce qui reste de Versailles est très exactement la vision qu'il a voulu nous transmettre, qui moi m'a fascinée. J'ai déjà pas mal travaillé sur la question, mais dans ce roman-là, j'avais envie justement de montrer non seulement les coulisses de ce théâtre, mais aussi les gens qui travaillaient à construire les tréteaux. Donc ça voulait dire les gens qui ont creusé la terre pour percer le Grand Canal.
Avec les risques que ça supposait.
Qui étaient décimés
par
le paludisme, parce que c'était des marécages putrides, infestés de moustiques, et les gens mouraient. Ils mouraient tant que Colbert y a affecté l'armée, les soldats. Et les soldats se mutinaient, parce qu'ils voulaient bien mourir à la guerre
pour
la gloire
du roi,
mais pas pour que Louis XIV puisse faire voguer des galères sur le Grand Canal. Et j'avais envie de parler de ça, et de montrer comment ces petites gens qui travaillaient à la fois à la gloire du roi et au service du roi dans ses appartements, comment est-ce qu'ils regardaient ce roi et les membres de la famille royale.
Alors on est particulièrement sensible depuis quelques années, depuis on va dire une vingtaine d'années, aux conditions de travail, et on a peut-être tendance à oublier un peu parfois, Mathieu Davina, que le chantier de Versailles s'est voulu de ce point de vue-là relativement exemplaire, avec notamment l'amorce, l'embryon de ce qui deviendra plus tard les services sociaux, en quelque sorte.
Il y a des règlements, effectivement, qui sont en place sur les chantiers. Ève l'évoquait à l'instant, il y a eu quand même des mutineries, hein, que ce soit des ouvriers, que ce soit les soldats ou des ouvriers.
Beaucoup.
Alors, il y a énormément d'accidents, mais qui, ramenés en fait au prorata, ne sont pas énormes par rapport au chantier de l'époque. C'est-à-dire que, on le dit, c'est un chantier long. Hein. Louis XIV, quand il commence à retravailler à Versailles, on est en 1661, lorsqu'il hérite du château tel qu'il était à la mort de son père Louis XIII en 1643. Et il va faire les travaux jusqu'en 1710, donc à peu près 50 ans de travaux. Donc, ramené au prorata et aux grands travaux de l'époque, on peut parler des chantiers d'église ou des choses comme ça, il y a des morts, évidemment, on peut les déplorer, c'est une centaine de morts, une petite centaine de morts par an, mais d'Angeau est estimé en 1685 36 000 ouvriers sur l'ensemble des chantiers versaillais.
Alors que la cour réside déjà ici et que le gouvernement s'y est installé depuis 3 ans.
Tout à fait.
C'est-à-dire qu'en fait, vous avez sur un même site le roi, la famille royale, la cour, etc., tous les services dont on parlait tout à l'heure, et puis tous les ouvriers, tout le gouvernement. Et là-dessus viennent s'ajouter 36 000 ouvriers.
Alors, quel chantier. Et c'est-à-dire que même lorsqu'on arrive au mois de mai en 1682, le marquis de Sourche nous dit le roi a décidé de venir s'installer à Versailles, quoiqu'il fût encore rempli de maçons.
Oui. Donc on est. Alors, c'était le cas, on vivait dans la colle, dans l'odeur des vernis.
Et le plâtre.
Et dans le bruit, un bruit incessant.
Et la dauphine qui accouche dès le mois d'août 1682 est obligée de quitter son appartement tellement ça sent le neuf, la peinture, oui. Et elle va chez Madame Colbert pour accoucher parce
c'est incroyable,
parce que son appartement
est terminé.
C'est incroyable. Même la famille royale est contrainte.
Alors, on aurait pu imaginer qu'on l'avait installée dans une résidence un peu à l'écart. Non, pas du tout. Louis XIV voulait avoir tout son monde là, sous la main, évidemment. Il y a sans doute une forme d'égoïsme chez cet homme. Et du reste, on a cette anecdote très célèbre d'une femme qui va se jeter sur la voiture du roi et qui le traite de roi putassier, roi machiniste. Cette anecdote est très souvent citée. Elle est très forte, évidemment.
Et qui fait fouetter... Alors, ça, c'est parce que c'est l'atteinte à la personne royale même. C'est-à-dire que c'est le crime de lèse-majesté de... C'est vrai, alors je connais cette anecdote, je ne sais plus exactement dans quel endroit elle est racontée et à quel point la véracité...
Spanheim, je crois, non ?
Oui.
C'est Spanheim qui raconte, donc je pense qu'elle est réelle, du coup, vraiment. Mais là, on est dans le crime de lèse-majesté, parce que le roi représente quand même Dieu sur Terre. Donc, on peut se permettre des choses, mais pas d'interpeller le roi comme cela. Et c'est vrai que là, le roi apparaît dans sa plus mauvaise image...
Et en même temps, comme c'est un accident en quelque sorte, ça c'est très intéressant les accidents en histoire, parce que c'est ce qui entr'ouvre le rideau pour voir ce qui se passe dans les coulisses, et c'est ce qui vous a donné envie d'écrire ce roman, vous, Ève.
Mais l'anecdote est intéressante à bien des titres. Quand on la regarde de près, ce qui frappe aussi, c'est que une femme sortie de nulle part, c'est effectivement une pauvre femme qui avait perdu son fils sur le chantier de Versailles et qui déboule out of nowhere en guenille, qui se jette physiquement sur Louis XIV pour l'injurier. Et donc on peut atteindre, malgré les Suisses, malgré les courtisans tout autour, une femme du peuple peut se précipiter et boxer Louis XIV en l'injuriant. Étrange. Imaginez la comparaison avec un président de la République aujourd'hui. C'est simplement pas concevable. Simplement, ce qui n'est pas non plus concevable aujourd'hui, c'est que cette femme soit saisie, fouettée sur la place du marché de Versailles et enfermée dans ce qu'on appelait les petites maisons, qui est l'asile d'aliénés, où elle va mourir. Parce qu'elle a attenté, comme le dit Mathieu, à la personne sacrée, d'ailleurs ointe à Reims, du roi.
Alors cette femme, vous lui avez donné chair en quelque sorte, vous lui avez donné des enfants, vous lui avez donné une histoire. C'est toute l'histoire du roi des ombres dans laquelle nous allons nous plonger à plaisir maintenant.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Un extrait sur Europe 1 de la symphonie pour les soupers du roi, composé par Michel Richard de Lalande.
Le roi des ombres, c'est le roman qu'Ève de Castro publie chez Robert Laffont et qui nous entraîne dans cet autre Versailles en quelque sorte, au basque de deux personnages très attachants, comme toujours avec vous, Ève de Castro. C'est un don.
Merci,
non, mais c'est vrai, c'est un don extraordinaire. On suit les pas de Nine et de Baptiste. Alors Nine, la Vienne, on peut dire qu'elle est à l'intérieur de la cour, hein, puisqu'elle travaille pour Monsieur Frère du Roi. Elle est la fille d'un baigneur et elle va devenir perruquière. Et puis Baptiste le jongleur. Alors lui, il fait partie de ce prolétariat de chantier en quelque sorte. Et puis petit à petit, il va grimper jusqu'à devenir fontainier. Donc vous nous montrez en quelque sorte la cour vue de l'intérieur et vue de l'extérieur, mais toujours vue d'en bas, ça c'est sûr.
Oui, tout à fait. Mais c'est ce que je vous disais à l'instant. Imaginez Versailles extérieur et intérieur comme un gigantesque théâtre. Et j'ai voulu placer mes personnages sous les tréteaux et dans les coulisses. Alors, à l'extérieur, parce que Louis XIV est un homme d'extérieur. Et dans cette première partie de la construction du château, donc des années 1666, de 1666 à 1674, qui correspond, me semble-t-il, au moment où le pouvoir absolu sa monarchie absolue en tout cas se scie. Il en a la vision de plus en plus précise et il la concrétise par le biais notamment de la construction de ce château. Et de la mort de la reine-mère, fin du premier contre-pouvoir, jusqu'à la décapitation du chevalier de Rohan, qui est son ami d'enfance, et symboliquement, en le faisant décapiter, il met à mort l'ancienne noblesse flandreuse. C'est une page d'histoire en soi. Et je voulais
faire
regarder...
un grand tournant de notre histoire, hein, d'ailleurs, que vous racontez de cette façon très anecdotique et très vivante.
J'espère, mais je pense qu'on peut raconter par le biais de personnages romanesques, en regardant justement l'histoire par-dessous, ce qu'étaient réellement les mécanismes un peu obscurs qui régissent ces pages.
Et puis vous l'écrivez avec ce style si savoureux qui est le vôtre. Un exemple pour nos auditeurs. La nuit du bal dans les jardins de Versailles est une féerie pour les invités et un cauchemar pour les hommes de Joly, donc pour les fontainiers.
Pour les fontainiers, oui.
Pendant que princes, princesses, ducs, marquises et comtesses folâtrent au son des violons, les cinq garçons fontainiers courent comme des lapins chassés. Le roi a promis à Mademoiselle de la Vallière de faire jouer pour elle les eaux dans toute leur splendeur. Il l'a promis dans des termes identiques à la reine, qui trottine derrière lui en frottant ses menottes. Il l'a également promis à la grande brune, trop maigre mais si piquante, qui se prénomme Henriette et qui est mariée à son frère. Et aussi à une blonde éblouissante, dodue comme un poulet de grain, déshabillée plus qu'habillée en Vénus, et qui, avec un air de Sainte-Nitouche, l'allume savamment. Le roi sait que les réservoirs ne peuvent fournir une pression suffisante pour alimenter toutes les bouches d'eau en même temps. Mais il a dit à Denis Joly qu'il attendait de lui un miracle. Pour que sa majesté ne soit pas déçue, Baptiste et ses camarades galopent de bosquet en bassin et s'écorchent les mains à ouvrir et refermer les vannes à mesure que la joyeuse troupe se déplace, couchés derrière les margelles, blottis dans les guérites, tapis à l'entrée des galeries souterraines qui traversent les allées, ils relaient le signal donné par Joly, lancent les jets au moment où le roi et sa suite en approchent et les coupent quand ils sont hors de vue. C'est extrêmement vivant et c'est vu avec toute l'ironie de notre siècle, hein, ce 17e siècle à son tournant.
Oui, mais justement, les deux personnages que je mets en chair et en os, enfin, Nine et Baptiste, ont un regard déjà eux-mêmes un peu impertinent sur le siècle et sur les personnes qu'ils servent. Nine, qui est l'héroïne de l'histoire, est la fille d'un personnage qui a existé, qui est le baigneur Lavienne, qui était barbier baigneur, chez qui Louis XIV, enfin, il tenait le plus grand établissement de bains publics de Paris, et Louis XIV, dans sa jeunesse, venait prendre les eaux chez lui et cherchait également des confortatifs, qui seraient l'équivalent un peu de notre Viagra, le rendant à même de satisfaire ses nombreuses maîtresses. Et cette petite fille permet d'approcher le roi dans son humanité, le roi, monsieur,
oui, les personnages qu'on connaît, les grands personnages
dans son humanité la plus triviale, le corps, les maladies, les cheveux qui tombent, les dents, etc.
Ève de Castro, le roi des ombres, c'est le grand roman que nous offre Ève, qu'elle nous a offert en tout cas la rentrée dernière. C'est publié chez Robert Laffont. Et puis je vous rappelle Le Versailles de Louis XIV de Mathieu Davina, réédité dans la collection Tempus des éditions Perrin, qui par ailleurs édite en coédition avec le Château de Versailles de François Iselin Les Lys et le Caducé, décidément aujourd'hui.
Mais il y a des jours comme ça, vous,
à la cour de Versailles.
C'était hier.
Merci à tous de votre fidélité pour aujourd'hui et pour toujours. Car on a les chiffres, on est très content. Vous êtes là toujours. Nous sommes fidèles,
un
vous
grand
êtes
merci
fidèles,
à tous.
Tout le monde est content. Bravo, merci.